Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, on est reparti avec nos trois débriefeurs. Pearl Bagot, directrice associée de Hub Institute, Augustin Seyer, cofondateur, directeur général d'OVNI, et Hugo Borenstein, cofondateur, président d'OMI, spécialisé dans la modélisation 3D. On va parler OpenAI avec la CTO, dont on a découvert une interview aujourd'hui. On va revenir dessus, mais on va surtout écouter ce qu'elle dit. Elle répond aux questions du journaliste, justement, sur notamment Sora. Sora, je vous le rappelle, on n'y a pas accès parce que pour l'instant, ça n'est que en interne chez OpenAI qui le teste. On lance en gros un prompt. Je veux une jeune femme japonaise qui se balade dans les rues de Tokyo la nuit tombante avec des lumières, trois avions qui passent dans le ciel. Et hop, on a un clip de 5 minutes vidéo assez incroyable. Et comme ça, vous pouvez faire tout un tas de scénarios. Enfin, en tout cas, c'est ce que promet Sora et c'est ce qu'on nous a montré. Mais justement, on va écouter la CTO nous parler de tout ça pour savoir d'où viennent ces images.
Quelle data vous utilisez pour entraîner Sora ?
Nous utilisons des données accessibles au public et des données sous licence.
Comme des vidéos sur YouTube ?
Je suis pas sûre.
Videos from Facebook, Instagram.
Vous savez, si elles sont accessibles au public, cela peut devenir des data, mais je suis vraiment pas sûre.
There might be the data, but I'm not sure. Yeah. I'm not confident about it.
What about?
Et par rapport à Shutterstock, je crois savoir que vous avez un deal avec eux.
Je ne vais pas rentrer dans les détails des data que nous utilisons, mais ce sont des données accessibles au public et sous licence.
Voilà, Mira Murati, qui est la CTO d'OpenAI, donc la patronne technique, et voilà, qui a un peu de mal à répondre à ces questions quand on lui demande d'où viennent les images. Hugo, ça te fait réagir ?
Ah, écoute, moi je trouve la séquence absolument extraordinaire, on dirait un film. Donc tu as la CTO, donc la Chief Technology Officer.
Numéro 2 ou 3 de la boîte. Quoi.
D'OpenAI, qui fait partie des cofondatrices, qui fait partie des 4 qui font OpenAI, et à qui on demande quels sont les datasets que vous utilisez pour entraîner vos modèles, et qui soit n'est pas capable de répondre, soit enterre noie le poisson pour ne pas vraiment répondre. Tu m'avais invité le jour où Sora a été lancé, et j'avais dit, je pense que dans l'histoire de l'IA génératif, personne ne se rappellera de Sora, et à mon avis, on en a encore une nouvelle preuve. Alors déjà, tu l'as dit, on peut pas tester. Donc tu as des vidéos magnifiques, dignes de films, dignes de Dune, qu'on peut voir en ce moment au cinéma, extraordinaire.
Si vous ne connaissez pas, vous tapez Sora, S-O-R-A, vous allez voir
sur Twitter.
Voilà. Mais vous ne pouvez pas tester, c'est ce qui est un peu frustrant.
Mais vous pouvez pas accéder. Voilà. Et ils vous disent, c'est en interne, et c'est, moi j'ai vu maintenant, il y a des astérisques avec des petites lignes en bas des posts Instagram qui disent, c'est pour donner un peu la direction, le sens vers lequel l'intelligence artificielle peut aller. Donc on reconnaît bien la signature d'OpenAI, qui est un marketing hyper, hyper puissant. Ils prennent Twitter de vitesse, et puis tout le monde ne parle que de ça. Et puis la deuxième question, c'est quelle data ils ont mis dedans. Alors le deal Shutterstock, il est pas si secret que ça, il y a eu plein de choses publiques. Nous d'ailleurs, on a le fondateur de Shutterstock aussi au capital, c'est public qu'il y a un deal sur les images, c'est 50 millions d'images qui ont été fournies à Sora. Là où elle a l'air un peu plus gênée aux entournures, c'est quand on lui demande est-ce que c'est de la data Facebook, est-ce que c'est de la data utilisateur. Tu sais que il y a une partie de la data quand tu la publies qui devient publique, et puis une autre partie qui reste privée.
Oui.
Vu la moue, la tête qu'elle fait, moi si je dois mettre des sous-titres, je me dis ils utilisent de la data pour laquelle ils n'ont pas la licence et pour laquelle ils n'ont pas le droit. Et la dernière rumeur sur le sujet, c'est que la data sur laquelle c'est entraîné n'est pas une data de photo ou une data de vidéo, mais une data 3D. Alors t'imagines bien que nous, on suit ça de très très près, évidemment, mais ce serait une data de 3D avec
ils iraient puiser dans des bases de données de 3D.
Ils auraient un deal avec Unity, qui est un des grands moteurs de rendu de 3D, alors plus pour le jeu vidéo, pour le gaming que pour autre chose, mais ils seraient allés entraîner toute la data, et c'est pour ça que ce que tu vois serait si parfait. Donc intellectuellement, philosophiquement, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on crée une image générique à partir d'une autre image, générique. Pour conclure rapidement, ça montre bien que la vraie valeur, elle est dans celui qui contrôle aussi la data. C'est-à-dire, si t'as un dataset bien tagué, propre, cohérent, que tu peux envoyer dans ces modèles pour leur faire faire les images que vous montrez, qui sont évidemment impressionnantes, on a l'impression qu'on se balade dans un vrai musée.
Si vous regardez le grain de la texture de l'image, on dirait une image.
Et on dirait une vraie image.
On n'est pas dans le jeu vidéo parfois. voilà,
non, on dirait une vraie image. Après, elle a ce côté parfait, pixel perfect qu'a la 3D, qu'ont les grandes franchises de jeux vidéo aujourd'hui. Last of Us, qui est une des plus connues. Oui. T'as l'impression, voilà. Mais ça a ce côté assez fake, assez généré. On voit bien sur l'image que t'es en train de montrer. Oui, mais le vrai sujet, c'est qui donne la data à ces modèles-là. Oui. D'autant que ces modèles se ressemblent de plus en plus.
Hugo est pas un fan de Sora. J'ai déjà entendu. Moi, j'ai écouté l'interview de la CTO, qui était d'ailleurs la CEO pendant deux jours.
On a retenu voilà, la partie qui nous a un peu choqué, mais l'interview, sinon elle...
Moi, je l'ai trouvé calme, j'ai trouvé méthodique, redoutable en fait. Franchement, elle est bluffante.
Bah, Mira Buratis, quand même, oui,
elle est bluffante. Et ce passage-là, pour moi, en fait, c'est pas du tout qu'elle elle n'ose pas dire d'où vient sa source. C'est juste qu'elle a pas. Comme tu dis, il y a des rumeurs. Elle parle pas de rumeurs, en fait. Et elle dit quoi? Elle dit ça vient de la data qu'on a pu acquérir, de la data gratuite. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Elle dit la data gratuite. Mm-hmm. Plus la data avec des partenaires avec qui on...
confident.
Mais tu trouves pas qu'elle est un peu grosse, quand même, là, la truc? Parce que t'es l'ex-CEO pour deux jours ou la CTO de OpenAI. Et normalement, tu sais qu'on va te poser cette question. Donc,
ouais,
tu l'as dit,
alors,
elle est redoutable.
Tu sais,
t'as une réponse clé en main qui fait que tu clôt le débat. Là, elle ouvre le débat.
Ouais, mais alors, ils étaient un peu préparés parce que la journaliste lui a dit, je vais t'envoyer quatre prompts et je veux les vidéos de ces prompts. Et donc dans l'interview, je pense que ça aurait été intéressant de les montrer, elle montre les prompts qui ont été faits juste pour cette journaliste, et il y a des erreurs dans la vidéo. Et ils analysent toutes les deux les erreurs. Elle dit, bah voilà, on n'est pas parfait, on a des erreurs. Tu vois quelqu'un qui est à New York, tu vois un taxi jaune qui passe derrière la personne et ça ressort, c'est une BMW. Mm-hmm. Ou tu as une BMW qui ressort taxi. Il dit, voilà, c'est une erreur, on essaye de s'améliorer là-dessus. D'où vient votre data? Bah, notre data, elle vient de tout ce qui est gratuit et des boîtes avec lesquelles on a
elle botte en touche parce qu'elle est très 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 emmerdée, parce qu'à mon avis, la data, comme c'est la guerre pour aller le plus vite possible, ils se fichent complètement des droits qu'ils ont sur la data. Et d'ailleurs, ils sont sous enquête de la FTC.
Il n'y a pas de New York Times aussi qui a... Bon, ça, c'est pas la vidéo.
Il y a la presse, mais t'as le législateur, t'as l'État, le gouvernement américain qui est en train de regarder, notamment sur les sujets de data.
En plus, si tu dis qu'ils vont chercher dans des moteurs 3D, perle sur le sujet.
Après, moi, je ne doute pas qu'elle soit extrêmement préparée. Je n'ai pas vu l'interview dans sa globalité, donc je ne sais pas le reste. Mais je trouve qu'en dehors de ce qu'elle peut dire, il y a aussi quand même son langage corporel et l'expression qu'elle a, qui l'a trahi un peu, où on sent en fait que c'est à la limite entre c'est pas mon sujet, donc c'est pas mon sujet parce que en fait c'est pas notre sujet.
Ça l'a fait sourire.
Ou alors, parce que justement, en fait, elle
si
est quand même.
Elle a quand même le main dans le cambouis, même s'ils sont 700.
Chief Technical Officer, elle sait forcément d'où vient la data qu'elle utilise dans ses modèles. Donc, pour moi, c'est Pearl qui a raison. Elle est très emmerdée. Mm-hmm. Mais par contre, ce qui est fou, c'est qu'elle soit pas foutue de sortir une réponse propre qui clôt le débat. Parce que tu dis, on a des deals exclusifs dont on veut pas parler.
Non, la journaliste insiste sur le truc, elle pose trois fois la question.
Ou alors elle est en confiance pendant toute l'interview et là ça tombe. Et là, elle se pose la question en disant, je dis la vérité ou je contourne.
Ils vont annoncer un partenariat Semaine Pro avec, je sais plus.
Ça arrive souvent pour faire régulièrement des interviews quand il y a des gens au moment où la confiance s'accorde. Et tout d'un coup.
L'interview ?
Ouais, c'est pour ça que j'ai mangé.
Pas tout à fait à la fin, non.
Mais parce que souvent, c'est ça, t'es en confiance et tout d'un coup, et là, la personne en face de toi, elle est plus dans le contexte langue de bois et tout d'un coup, là, la question, c'est de dire elle est un peu. En tout cas, voilà, on va suivre ça et puis on verra ce qu'il faut penser.
Mais là, ils ont testé. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont vraiment testé. Ils ont dit voici les cap prompts ce matin. Voici les cap prompts.
Il avait dit Sam Altman quand il avait lancé Sora, il a dit envoyez-moi les prompts et puis on verra. On en sélectionnera quelques-uns pour vous montrer que.
Ouais, après, ils l'ont fait le jour même ou
en asynchrone sous une cloche de verre dans ton labo, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Là, le problème, c'est l'écart entre la promesse, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir faire ça, donc on va révolutionner les industries créatives. En gros, on va tuer Adobe et la réalité du produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'y as pas accès.
Et puis attention à toute la partie risque, deepfake, enfin, etc.
Aujourd'hui, tu n'y as pas accès. Maintenant, quand tu regardes en arrière le progrès et l'accélération de aujourd'hui, ce que tu as sur le marché versus il y a un an, c'est extrêmement bluffant. Ne serait-ce que pour l'image, par exemple, la génération d'images. C'est impressionnant. En un an, nous, on a fait l'exercice en prenant une même image. Et d'ailleurs, il y a encore quelques mois, tu avais une image très, très fausse, très parfaite. Aujourd'hui,
On a fait le test d'ailleurs en comparant deux photos. La photo où tu as le détail du grain de peau, les imperfections, quelque chose où tu dirais non mais ça c'est sûr, c'est une photo qui a été prise par un iPhone, j'ai pris en photo mon ami avec ça. Bah, c'est une image qui est générée via l'IA générative. Donc moi je pense que ça peut aller très vite. Aujourd'hui c'est pas accessible, certes il y a encore certainement un gap important parce que passer de l'image à la vidéo c'est encore autre chose, et puis faire 10 secondes 60 secondes c'est une chose, faire un film ça en est une autre, mais quand on voit la marge de progression qu'il y a eu en un an, on peut se demander quand même, on se donne rendez-vous dans un an et on regarde
les,
quoi.
Les deepfakes, je trouve qu'aujourd'hui si t'as un serveur un peu puissant, ce que tu peux faire, on a un de nos intervenants réguliers, là, Xavier Perret, qui est chez Microsoft, mais qui s'est amusé à refaire une scène de Star Wars où il s'est mis en visage Yann Solo, c'est impressionnant quoi. Il est, c'est lui quoi. C'est parfaitement c'est très... ça avance très vite en tout cas, on suivra ça, et puis je vous conseille d'aller voir en tout cas cette interview après l'émission de Mira Amorati, parce qu'à côté de ça, c'est vraiment une des têtes pensantes de OpenAI, et qui, comme tu l'as dit, a été CEO pendant quelques heures, le temps que Sam Altman s'en aille et revienne. Tiens, on va rester alors toujours dans le domaine de l'IA, c'est Grok, l'IA d'Elon Musk, qui est disponible en open source. Alors, on sait qu'Elon Musk est en guerre contre OpenAI, il veut sortir, lui, mais très en avant l'open source. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on discute un peu sur open source, pas open source. Et puis voilà, il veut sortir une alternative au modèle de langage. Il a même sorti une version Grok pour GitHub, pour les développeurs. On sait qu'il y a un OpenAI, un copilot pour GitHub. Et ben là, il y a son concurrent maintenant avec Grok. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut. Tu as regardé un peu, Perle, ce Grok One?
Ouais, j'ai regardé un peu. Bah, effectivement, déjà, par principe, Elon Musk fait ce que les autres ne font pas, ou en tout cas prend le contre-pied des autres. Après, le modèle open source, c'est quand même pas évident à maintenir, et on le voit d'ailleurs par exemple avec Mistral, il faut qu'il s'est rapproché de Microsoft, il faut pouvoir quand même soutenir, investir le développement et trouver un modèle économique en fait. Alors Elon Musk forcément il peut un peu plus se le permettre.
Oui, bah comme Facebook le fait aussi avec son
exactement.
Modèle.
Donc il prend un parti pris un peu décalé par rapport à ses ennemis jurés. Maintenant, il faut voir effectivement ce que ça donne derrière. Est-ce que c'est un concurrent vraiment féroce face à des acteurs qui sont déjà existants, notamment OpenAI? À ce stade, je ne suis pas certaine.
Dans le monde du VC, il se déchire entre deux titans. Il y en a un qui est proche de Elon Musk, mais il y a Marc d'Andreessen Horowitz, qui a clairement pris la défense d'un Elon Musk qui croit en ce open source AI. Et l'autre, celui qui croit beaucoup plus en un closed source AI, c'est Vinod Khosla, de Khosla Venture. Ils ont tous les deux des avantages et des inconvénients. J'ai pas un avis particulier. Elon Musk, évidemment, Vinod Khosla, c'est marrant, on revient sur du géopolitique, mais il y a même des enjeux géopolitiques sur ce open versus closed.
Et puis on revient aussi, alors pour les plus anciens dans l'informatique, l'open source, c'est ça la partie quand Windows a commencé à grimper. On a vu l'open source a été un peu mis de côté, puis les entreprises sont revenues vers l'open source, remettant un peu au devant de la scène. Bon, il y avait toutes les plateformes aussi Internet qui se mettaient à partir d'Apache, Linux, etc. Et aujourd'hui, Microsoft s'en cache plus, ils sont fans d'open source.
Mais là, il y a
pareil.
C'est un débat open source ou closed source quasiment, pour moi, philosophique. Mmh. Et effectivement, tu as deux camps qui se dessinent hyper clairement. Tu as d'un côté Meta, qui est fidèle à sa stratégie d'open source, et tu as de l'autre Microsoft et OpenAI, qui sont les tenants du closed source. Pourquoi est-ce que c'est, pour moi, le débat le plus important? À longueur de journée, on discute de ça, on parle de ça. À longueur de plateau, on parle de la disruption qui va arriver via l'intelligence artificielle. La question, c'est, est-ce qu'on veut que cette disruption, elle soit portée par un acteur ou par plusieurs acteurs? Est-ce qu'on veut qu'un seul acteur privé ait le monopole sur le futur du travail, le futur de la santé, le futur de la communication, le futur de ce que tu veux, du contenu? Ou est-ce qu'on veut que plusieurs acteurs aient la main dessus? Moi, je suis plutôt de l'école open source. Mm-hmm. Pas parce que j'ai passé un peu de temps chez Meta, mais parce que philosophiquement, je trouve ça beaucoup plus simple.
L'initiative Xavier Niel, Qtie, enfin avec Eric Schmidt et Robert Saadé, qui au passage est le nouveau propriétaire de BFM, c'est autour de l'open source.
C'est autour de l'open source et c'est très bien. Alors, c'est beaucoup plus courageux. Parce que ça veut dire que si tu as fait un papier dans lequel il y a potentiellement une application business importante et qu'il est en open source, bah, quelqu'un d'autre peut faire l'application business à ta place. Mais ça veut aussi dire que tous les effets plus pervers, tu parlais des deepfakes, on parlait régulièrement de la désinformation, l'usurpation d'identité, ce genre de choses-là, ça veut dire que d'autres chercheurs vont venir contrôler, compléter, maîtriser ces risques-là.
J'ai vu ça. D'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu disais sur la partie. Vous savez, il y a quelques jours, Taylor Swift, il y avait un deepfake sur, autour de, voilà, d'images porno. Machin autour d'eux. Et ce qu'il a le plus défendu, c'est sa communauté. Alors, tout le monde n'a pas la communauté de Taylor Swift, mais en fait, c'est toute sa communauté qui a ressorti du contenu. Enfin, c'était assez impressionnant de voir comment ils ont réussi à effacer un peu ce contenu. Autre sujet, j'aimerais qu'on parle un peu de cybersécurité. Donc, est-ce qu'on est prêt pour les JO de Paris? Alors, on voit, je ne vais pas refaire toutes les dernières actualités. Je vais quand même en refaire une, là, récemment. Alors, c'est les gendarmes français qui ont été cybertestés. Alors, je crois qu'on offrait des places pour les JO, et donc il y avait un petit QR code, il fallait cliquer. Et puis même nous, alors je ne sais pas si vous l'avez reçu, nous journalistes, on a essayé de nous piéger, on a tous reçu une invitation OpenAI, Open Mistral.
Une invitation papier ou une invitation mail?
Une invitation mail. Ouais. Mistral, il va lancer sa grande version au Grand Palais avec les Daft Punk en présence d'Emmanuel M.
D'ailleurs, plus c'est gros, plus Macron. Ça passe, non?
Et t'as acheté deux places à 2000 euros la place.
Et tu avais le QR code, et alors quand tu regardais le QR code avec ton appareil photo, ça mettait cybermalliance.gouv.fr. Après, est-ce que ça renvoyait vers le vrai site? Parce que là aussi, on peut encore jouer, mais en tout cas, ça lançait une alerte. Et alors, pour revenir sur nos gendarmes français...
C'était l'alerte du gouvernement. Ça, c'est l'initiative du gouvernement qui...
Les gendarmes français, c'était gagner des places de JO. C'était une alerte du gouvernement qui lançait ça. Pour celle de Mistral AI, on est en train d'enquêter pour voir si c'est aussi le gouvernement qui a essayé de voir si...
les gens se font avoir.
Qui pouvait se faire avoir. Il y a quand même sur 9 ou 10 000 militaires là, qui ont été testés, il y en a 10-15% qui se sont fait avoir. Donc on est quand même... parfois, plus c'est gros, comme tu le dis, plus on se laisse prendre. Parce que ça vous inspire comme...
Oui, ensuite,
on n'est pas prêt.
Et je pense qu'en dehors des JO tout court, on n'est pas prêt. C'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, on voit l'actualité là, ces dernières semaines. Enfin, c'est assez effrayant, en fait.
On a eu France Travail, donc l'Ex-Pôle Emploi. On a eu il y a quelques semaines, c'était... Oui, c'était Via Midi, c'était les organismes tiers qui travaillaient avec les sécurités sociales. Donc, on a le FMI là, qui s'est fait pirater aussi récemment. Enfin,
c'est assez effrayant. Et d'autant plus qu'on sait que la faiblesse vient de l'humain, en fait. Mm-hmm. C'est le clic sur un lien. Donc, il y a un enjeu de sensibilisation et de formation qui est extrêmement important, qu'on voit quand même qui est pris de plus en plus en compte avec des campagnes de sensibilisation. Mais je pense qu'il faut vraiment accélérer ça, et dans les entreprises, parce que l'impact, il est quand même colossal. Il y a la partie plus visible qui est « Ok, on se fiche, on se prend nos données ». Mais en fait, derrière tout ça, pour des entreprises surtout, il peut y avoir des impacts business très forts sur le long terme, généralement, qu'on ne voit pas directement. Enfin, c'est un vrai, vrai sujet.
Moi, je suis pour qu'on tape sur les doigts des salariés qui se laissent prendre. Parce que je trouve que là...
Ah ouais ?
Ah oui, je trouve que... J'avais un industriel qui me racontait, nous, première fois, on leur dit attention. Hein. Deuxième fois, on leur une formation obligatoire. Troisième fois, c'est rendez-vous avec son chef de projet, le RSSI, etc. Quatrième fois, c'est on va rendez-vous avec la DRH.
Ouais, après, je suis d'accord, le mec qui... Il se fait avoir quatre fois dans la même boîte, à un moment, il faut prendre des décisions.
Ce que dit Pierre, c'est vrai que c'est compliqué, parce que parfois, ça devient de mieux en mieux fait. Grâce à l'IA, c'est vraiment très précis. Ça surfe. On reçoit, nous, l'invitation que l'on reçoit, ou Gérald Darmanin qui envoie un mail. Enfin, je ne sais pas si c'était à base de Gérald Darmanin, mais en disant, pour vous remercier de tout ce que vous allez donner, vous allez avoir droit à des places au JO. Ça paraît tout à fait crédible, quoi. En plus, ça doit être suffisamment bien fait. Enfin, voilà. Toujours davantage de sensibilisation. Et puis, j'aimerais qu'on termine, il nous reste 3 minutes là, sur un sujet. LinkedIn. Alors, LinkedIn a fait sa grande conférence annuelle. Ils ont annoncé pas mal de choses. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, quand on rédige un post sur LinkedIn, maintenant, il y a un petit truc. Enfin, moi, j'avais, c'est IA pour vous aider à rédiger.
Ouais, bien sûr.
Alors, j'ai pas testé si j'ai les mots-clés, puis voir s'ils me rédigeaient quelque chose de correct. Mais enfin, il y a ça. Il y a une mise en avant des contenus. Et puis, des jeux vidéo. Alors, des quiz, des jeux de dames, voilà. Alors, vous savez que LinkedIn, c'est plutôt pro, mais les jeux vidéo, c'est pour que les salariés bien jouent, et puis ça fait gonfler une sorte de score de l'entreprise. Je sais pas si vous avez regardé.
Je pense que tu m'apprends quelque chose. Tu m'apprends quelque chose, c'est que LinkedIn a un conférence day chaque année, parce que je savais pas qu'ils essayaient de trop d'innover sur le produit.
C'est poussé par son actionnaire majoritaire Microsoft, hein, qui est encore derrière tout ça.
C'est marrant, parce que l'autre jour, j'étais sur LinkedIn, je me dis en fait, le produit, il y a aucune, en fait, je ne vois pas d'innovation en tant que consommateur depuis des années. Sur le produit à la marge, il s'améliore.
Non, et puis aujourd'hui, c'est l'échange de cartes. Hein. Aujourd'hui, on dit aller sur LinkedIn et puis on accepte, etc. Donc ça, c'est quand même bien, bien installé. Mais c'est vrai que l'innovation autour de ça, je ne sais pas, Hugo
Moi, je suis d'accord sur le produit. Après, c'est sur le catalogue, je trouve qu'il y a une vraie innovation. C'est-à-dire que ce que tu postes aujourd'hui, moi, j'ouvre mon LinkedIn, j'ai des photos, des trucs perso, des trucs moins perso, de moins en moins de trucs pro, etc. Et donc, en fait, LinkedIn se Facebookise, selon moi.
C'est pour ça que je disais les jeux vidéo.
Et les jeux vidéo, ça a été une étape.
Pas des jeux vidéo, des quiz, des machins. Enfin, c'était
Les petits jeux de dames où tu peux jouer, ou le steak, ou ce genre de trucs-là. Alors, c'est pas des vraies parties de gaming, mais c'est du jeu entre deux personnes. Ça ressemble à ce qu'a fait Meta à l'époque sur Facebook, puis dans Messenger. Donc, pour moi, ils se Facebookisent à fond. Je sais pas bien de dire ça, mais je connais plus grand monde qui va vraiment sur Facebook. Et je pense que ce catalogue est passé
côté
de
moins en moins sur les.
Ouais, et ça se ressemble vraiment, vraiment beaucoup. Ça s'uniformise, moi je trouve. Et t'as des news aujourd'hui dans un LinkedIn très perso, beaucoup plus loin du pro. T'as des billets d'opinion, tu vois, t'as presque de l'édito, là où t'avais quand même avant que la news professionnelle.
Alors, ils ont essayé de les mettre beaucoup plus en avant, justement.
Ouais. Et donc c'est logique qu'ils construisent sur l'usage. Moi, je trouve que c'est quand même une claque d'un point de vue utilisation, parce que tu l'as vu exploser ce réseau social en termes de membres et puis en termes de fréquence de postes. C'est juste monstrueux.
Hub Institute, justement, Perle Bagot, vous conseillez à les entreprises avec tous les membres de Hubitude, et qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui quand tu les conseilles d'utiliser LinkedIn?
Il y a plusieurs manières d'utiliser LinkedIn, effectivement, que ça soit dans le business pour faire du social selling à travers justement un réseau qui est censé en tout cas être professionnel, que ce soit pour la marque employeur, ça reste quand même un réseau qui est incontournable. Alors peut-être qu'effectivement il y a plus d'informations ou d'éléments de vie privée, mais ça reste quand même. D'ailleurs, je trouve que, enfin, on voit souvent que c'est quand ce sont des posts qui sont plutôt privés, c'est assez dénoncé par il y a une espèce de communauté de fond qui dit non mais c'est pas Facebook justement. C'est un réseau professionnel. Mais ça reste quand même un outil hyper important, que ce soit en gross marketing, que ce soit d'ailleurs en gross marketing pour le business ou pour la marque employeur, qui reste quand même incontournable aujourd'hui. Moi, je rencontre n'importe quelle personne, même avant un rendez-vous, la première chose que je fais, c'est que je vais voir son profil LinkedIn, c'est évident.
Et nous, je peux dire qu'on fait des contenus, des LinkedIn, même des LinkedIn Live. On a une audience, mais assez forte.
Ah oui, sur les LinkedIn Live.
Quand c'est bien vendu, alors évidemment, si on fait des sujets IA en ce moment, on est tranquille, on a la large audience, mais même sur des sujets un peu plus pointus, on en a fait une sur le dernier kilomètre, on a fait une sur.
Tu utilises beaucoup LinkedIn, Fred?
Moi, j'utilise LinkedIn pour poster des bouts d'émission. Ouais.
Il faudrait que tu m'acceptes dans tes amis, parce que je crois qu'avec Hugo, on se disait, on est tous les deux en friend request chez toi.
Bon, eh bien,
moi, je suis accepté.
Oh non, c'est
je suis tellement longtemps.
Ah si, c'est vrai. Je vais vous accepter.
On en avait parlé.
Merci en tout cas à tous les trois. Perle Bagot, donc directrice associée de Hub Institute, qui accompagne donc les entreprises à mieux comprendre tous ces enjeux numériques, et puis qui rentre justement du Southwest à Austin, et qui pourra vous expliquer tout ce qui s'est passé là-bas. Augustin Seyer, cofondateur, directeur général d'OVNI, et Hugo Borenstein, cofondateur et président d'OMI. Merci à tous les trois, c'était encore une fois passionnant.